discussion du soir. Les discussions du soir, Régis Debray.
Je reçois ce soir l'excellent Jean-Claude Guibaud, reporter de guerre, mais aussi écrivain, essayiste et chrétien. Jean-Claude Guibaud, vous avez écrit en 2016 « Le tourment de la guerre » et c'est ce qu'on peut appeler un livre total, c'est-à-dire un reportage, une confession, une méditation, une compilation, si j'ose dire, ou en tout cas un répertoire sur le sujet de la guerre. C'est un livre qui m'a touché parce qu'il est à la fois la première personne du singulier et du pluriel, parce que vous, vous racontez, c'est votre histoire, mais vous racontez également notre histoire. Alors évidemment, quand vous dites « nous avons désappris à penser la guerre », et c'est l'objet de votre livre que de nous réapprendre à la regarder et à la penser. Alors le « nous », excusez-moi, je ne me sens pas dans ce « nous » parce que, comme tous les philosophes, et notamment les philosophes de l'histoire, quand on a lu Hegel et Héraclite, on ne fait que ça, penser la guerre. Hein, Polémos, le père de toutes choses, la lutte du maître et de l'esclave, le moi se pose en s'opposant, je dirais, c'est notre pain quotidien. Mais c'est vrai que la philosophie anglo-saxonne est venue par-dessus tout cela, le positivisme logique, et on a, philosophie du langage, ont un peu repoussé la considération de la guerre. Maintenant, je vais vous dire franchement, ce qui m'intéresse, c'est le chrétien que vous êtes. Le chrétien qui s'interroge sur la guerre et sur la façon dont la guerre peut interroger le christianisme. En tout cas, le christianisme d'aujourd'hui, qui s'était peut-être un peu imbibé de cette atmosphère exceptionnelle régnant en Europe depuis 70 ans, où la guerre était congédiée, était repoussée très loin, en tout cas, en dehors de l'Hexagone. Et dans votre livre, vous mentionnez ce qui est rare, ce que vous appelez les plaisirs dégoûtants, les jubilations suspectes. Mais moi, j'ai envie de vous demander... Oui, ces plaisirs sont dégoûtants. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu dans l'histoire chrétienne des devoirs monstrueux, celui de la guerre sainte, celui de la croisade ?
Cher Régis Debray, si je peux me permettre, je voudrais d'abord prendre une minute pour vous faire une réponse latérale. Quand on m'interroge en tant que chrétien sur la guerre, je réagis d'abord par une exaspération incroyable et une colère. Je m'en explique. Il est d'usage aujourd'hui, notamment dans les médias, parce que en effet les philosophes pensent la guerre, mais plus les hommes politiques et plus les médias. Il est d'usage aujourd'hui de désigner tous les conflits du monde comme des conflits, comme des guerres de religion.
Oui, non, mais écoutez, attendez, ça c'est des bêtises.
Attendez, oui, mais attendez, attendez.
Bon, on n'en est pas là, mon cher Jean-Claude.
C'est extravagant, et je recommande aux gens qui en douteraient de lire un excellent livre de Georges Korm, qui est un grand intellectuel et un libanais, qui a écrit un livre qui s'appelle « Pour une lecture profane des conflits ». C'est-à-dire pour bien comprendre que la religion peut être instrumentalisée dans une guerre, mais qu'elle en est rarement à la source. J'ajoute que désigner, comme le font beaucoup de gens dans les médias, etc., désigner la religion comme source de la guerre, c'est une singulière amnésie. Si je ne m'abuse, le XXe siècle a été ensanglanté par deux grandes idéologies qui avaient en commun d'être rigoureusement athées. C'est-à-dire la brune et la rouge, c'est comme si on disait, ben voilà, l'athéisme est la source de la guerre. Je vous assure que ça n'est pas négligeable d'écarter cette sottise et cette folie.
Vous parlez tout de même, vous parlez avec un philosophe qui a fait l'histoire des religions et qui sait tout ça. Mais puisque vous posez vous posez le problème d'emblée, eh bien, allons-y.
Oui. Alors, je vais vous dire. Je suis, en outre, exaspéré. En écrivant ce livre, j'ai été exaspéré par énormément de thèses, par énormément de... Je pense à des philosophes comme Michel Onfray ou d'autres, etc., qui, au fond, opposent la violence religieuse du monothéisme à la douceur et la douceur du polythéisme grec.
Ouais, non, mais écoutez,
c'est pour, non, mais je vais vous dire, c'est pour ça que je me suis astreint. Alors évidemment, comme vous êtes philosophe, vous deviez connaître les guerres du Péloponnèse, vous deviez connaître ce livre par cœur. Je me suis astreint à le relire posément et à retourner dans certains endroits qu'il cite, notamment à Syracuse. Quand on lit les guerres du Péloponnèse, de Thucydide, qu'il a lui-même vécu, puisqu'il a été aussi guerrier, on s'aperçoit que les monstruosités qu'il décrit font plutôt penser à Daesh aujourd'hui qu'à la douceur polythéiste, quoi. Et quand je pense à... J'ai été à Syracuse voir ce qu'on appelle les latomies, c'est-à-dire ces carrières à ciel ouvert dans lesquelles les Athéniens, comme les Grecs, laissaient mourir progressivement leurs prisonniers. Autrement dit, la douceur du polythéisme opposée à la violence du monothéisme est une singulière sottise.
Oui, mais écoutez, laissez les conneries aux cons, si vous voulez. On n'en est pas là. Alors, puisque vous posez le problème, eh ben j'y vais. Bien sûr qu'il ne faut pas diaboliser le monothéisme, qui n'a rien inventé, mais c'est précisément le problème. Le polythéisme, vous l'avez dit, a été animateur, si j'ose dire, et animé par de multiples guerres, et l'athéisme aussi, pensons au nazisme et au communisme. Là n'est pas le problème. Pour un anthropologue, j'entends, pour un anthropologue qui sait bien que les premiers charniers qu'on découvre remontent à 6000 ans avant Jésus-Christ, avec toutes sortes d'indices de massacres. Mais...
Vous parlez de charniers, je peux ajouter quelque chose?
Le monothéisme n'a pas réinventé...
Excusez-moi, laissez-moi ajouter une chose que je raconte dans mon livre, parce que ça m'est revenu, j'avais oublié ce souvenir. Il se trouve qu'au tout début de la perestroïka en Russie, en association avec l'ONG Mémorial, que M. Poutine a fait disparaître, avec Mémorial, j'ai assisté en Sibérie, à Irkoutsk, à l'exhumation de charniers staliniens, et j'ai assisté à l'exhumation de à peu près 10 000 corps staliniens. Et tenez-vous bien, on ne savait pas à l'origine quelles étaient les victimes en question. Et puis, grâce à un accident, d'une des dépouilles se sont tombées quelques kopecks. Et les kopecks étaient datés de 1938. Et on sait qu'en 1938, ce sont principalement des chrétiens qui ont été assassinés, y compris des centaines et des milliers de prêtres et d'évêques, etc., par Staline. Donc,
écoutez,
l'exhumation des charniers,
Jean-Claude
quand on
Guibaud.
Parle de la violence chrétienne... Enfin,
je ne vous parle pas de la violence chrétienne. Jean-Claude Guibaud, la compétition des charniers, elle est infinie. Hein. On pourrait aussi parler des charniers des guerres de religion, des charniers franquistes, des charniers de la croix. Alors écoutez, allons au-delà de ces banalités, excusez-moi. On sait très bien que l'histoire est disons... tragique, si on veut. Mais moi, je voulais vous poser une question. Bien sûr que le monothéisme n'a rien inventé. Mais c'est ça le problème. Il n'a pas désinventé non plus. Il n'a pas désinventé la guerre. Et on peut même se le demander s'il ne l'a pas... Oui, vous avez parlé du Moyen-Âge. Allons au fond. On va parler matrice. Est-ce que le monothéisme n'a pas aggravé cette violence universelle par la notion de vérité? Comme vous savez, le monde chrétien se décroche du judaïsme et au IIe siècle rencontre la philosophie grecque. Qu'est-ce que c'est que la philosophie? C'est un discours de vérité. Et là, le théologien va fondre le discours de la révélation dans celui, je dirais, de l'apodictique, c'est-à-dire « vera religio veri dei », la vraie religion du vrai Dieu. Dès lors, les tragiques errements sans cause extérieure du monothéisme, est-ce qu'on ne peut pas y voir la conséquence logique d'une cause toute simple? La vérité, elle est chez moi, l'erreur, elle est chez les autres. Évidemment, la vérité, je dois la faire reconnaître par les autres, quitte à les tuer. Alors, c'est vrai, ça me semble une notion qui n'est pas tout à fait nouvelle, parce que si vous lisez l'Ancien Testament, et notamment le livre de Josué, c'est un long récit Absolument. De massacres. Et le « tu ne tueras pas » fameux du Décalogue, c'est « tu ne tueras pas » à l'intérieur de la tribu, hein, mais tu peux tuer ailleurs. Et d'ailleurs, quand on parle de terrorisme, moi j'aime rappeler que le premier terrorisme célèbre, c'est Samson. Il fait s'écrouler le temple sur les Philistins, et tu sais ce que l'Ancien Testament dit, mon cher Jean-Claude, 3000 morts. Oui. Exactement ce du 11 septembre. Ça semble être, dans la Bible, c'est la jauge.
Cher Régis,
un massacre qui réussit, c'est 3000 morts. Bon, mais revenons à cette idée. Je suis dans le vrai, tu es dans le faux, et donc je dois t'éduquer à la vérité. Et puis le faux, ça attaque le vrai, donc je dois arrêter. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là un petit, comment dirais-je, un petit plus?
C'est une vraie question, Régis, que je prends très au sérieux, et vous avez raison de la poser. Je ferai simplement une toute petite objection. Moi, j'appartiens à une génération. Je suis né en 1944. Donc, j'ai eu ma vie d'adolescent, etc., dans les années 60 et 70, où la pensée dominante chez nous, en France, était, disons, la pensée marxiste. En gros, le sartro-marxisme. J'ai entendu toute mon enfance parler du socialisme scientifique. Autrement dit, présenter le marxisme non pas comme une opinion, mais comme une vérité. Le socialisme scientifique. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'adhérer à une croyance, on vous demande de reconnaître ce qui est vrai. Et c'est étrange, parce que, évidemment, le reproche que vous adressez au christianisme...
Non, pas le reproche.
Enfin, la remarque que vous faites à propos du christianisme...
La notion de vérité.
Elle est juste, mais cette notion de vérité, malheureusement, elle a été revendiquée par des idéologies, par des points de vue qui étaient tout sauf chrétiens. Autrement dit, je ferai ce petit bémol, mais qui n'est pas tout à fait petit, qui est une... Je serai... Regardez aujourd'hui, nous vivons le retour de la violence absolue. Regardez comment s'expriment les Daesh, les terroristes, avec beaucoup d'intelligence d'ailleurs, avec plus d'intelligence que nos politiques, si j'ose dire. Ils sont moins... Et ils s'expriment au nom de la vérité, d'une vérité absolue, qu'il n'est même pas question de discuter. Autrement dit, oui, en effet, j'ai mis en exergue de mon livre une citation qui dit que, au fond, les conflits, quand ils deviennent religieux, sont les pires qu'ils soient. Donc je suis parfaitement d'accord avec cela. Mais je suis contre le fait qu'on impute ça seulement aux religieux, ce qui est une façon commode d'oublier ce que nous avons vécu
d'accord.
au XXe siècle.
Mais si vous voulez, Jean-Claude Guibaud...
Je ne vais pas faire d'humour sur le plan de l'économie. Vous vous souvenez ce que M. Alain Minc appelait le cercle de la raison. C'est-à-dire que le cercle de la raison, ça veut dire que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'êtes pas dans la vérité.
Oui. Mais si vous voulez, Jean-Claude Guibaud, la vérité est universelle. L'erreur est particulière. Dès lors que la vérité vient se mêler de la croyance, ce qu'on ne fait pas dans le polythéisme grec et romain, et ce qu'on ne fait même pas dans le judaïsme ethnique, il y a une projection naturelle, j'allais dire internationale. C'est-à-dire qu'il faut que la Terre entière reconnaisse la vérité de la Terre. Bon, et là, me semble-t-il, il y a peut-être... comme une sorte de prosélytisme, d'expansionnisme naturel, qui est, je dirais, le propre des croyances monothéistes.
Est-ce que je peux vous ajouter une remarque spécifiquement chrétienne?
Ouais.
J'ajouterai à ce que je vous ai dit qu'il y a aussi une tradition dans l'histoire du christianisme de contestation cette vérité absolue. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu dans l'histoire il y a toujours eu l'institution qui maintenait la vérité, si j'ose dire, l'Église en tant qu'institution, et au fond le message évangélique qui s'est transmis dans les marges par les dissidents qui contestaient cette vérité. Et je vais vous donner un exemple récent qui m'a toujours bouleversé. Il y a Pierre Clavry, l'évêque de Rouen, qui a été victime en 1996 d'un attentat terroriste. C'était un spécialiste de l'islam à Oran, qui engageait un dialogue avec les musulmans. Et savez-vous quelle est la phrase de lui qui est restée, qui est magnifique, et du coup qu'on a fait graver à Oran sur sa tombe? Il a dit « Le vrai dialogue ne peut commencer qu'à partir du moment où j'accepte l'idée que l'autre est peut-être porteur d'une vérité qui me manque ». Ça veut dire que c'était une contestation de l'appropriation de la vérité par une frange de la tradition chrétienne.
C'était la modernité s'imposant une révélation ancienne.
Quand Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
La chanson de Craonne a été composée et chantée en 1917, au moment où ont commencé les, vous savez, les exécutions pour l'exemple de soldats, etc., et a commencé la révolte. L'état-major a cherché pendant des années à connaître l'auteur de cette chanson. On ne l'a jamais connu. Mais c'est la protestation la plus magnifique de cette guerre 14-18, au moment où la vérité imposée à tous, c'était ce que Albert Londres a appelé le bourrage de crâne de l'état-major.
Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe.
Jean-Claude Guibaud, c'est, vous l'avez dit, une protestation et c'est aussi une acceptation. Et c'est pourquoi votre choix est fort juste. On y entend adieu la vie, on y entend c'est bien fini, on y entend c'est pour toujours. Allons à ce qu'il y a dessous ces mots. Adieu la vie, c'est-à-dire j'accepte la mort. Et au fond, aujourd'hui, il y a, dit-on, les terroristes d'un côté, les démocrates de l'autre. On peut dire il y a ceux qui craignent de mourir et ceux qui ne craignent pas de mourir. C'est-à-dire que il y a des sociétés ou des moments de l'histoire où il y a du sacré et d'autres où il n'y en a plus. Et qu'est-ce que le sacré? Vous le savez bien, Jean-Claude Guibaud, c'est ce qui interdit le sacrilège et légitime le sacrifice. Et rend même nécessaire le sacrifice. Et c'est pourquoi la notion de religion, pour moi, si vous voulez, n'est pas cruciale, parce que les kamikazes qui acceptaient la mort, comme nos human bombs d'aujourd'hui, le faisaient par loyauté au fils du soleil, sacralisé. C'était pas tellement au nom de la religion shinto. Donc, est-ce que la question, et c'est pourquoi votre livre incite à réfléchir à ça, est-ce que la disparition du sacré dans nos sociétés ne nous met pas en position de faiblesse par rapport à des gens pour qui le sacré existe et donc le sacrifice de soi?
Absolument, cher Régis Debray. Et là, je ne peux pas, pardonnez-moi, je ne peux pas vous répondre sans citer l'exemple de mon père. Il se trouve que mon père, je suis un enfant de vieux, mon père m'a fait très tard, si j'ose dire, à 54 ans, mais mon père a été reçu à Saint-Cyr à 19 ans, 3 mois avant le début de la guerre de 14. Et il a fait partie de cette promotion qui s'appelait la Grande Revanche, où ils étaient 780 élèves, le plus jeune avait 19 ans et le plus vieux 20 ans, quoi. Et comme la guerre a éclaté 3 mois après leur entrée à l'école, et qu'à l'époque on croyait que la guerre n'allait durer que quelques semaines, on les a réunis à Saint-Cyr et on leur a dit « Bon, on vous nomme, on suspend vos études pour quelques semaines, on vous nomme sous-lieutenant à titre provisoire » et on vous envoie comme chef de section. Ils sont partis 780, la guerre n'a pas duré quelques semaines, elle a duré 4 ans, et sur les 780, il en est revenu moins de 300, dont mon père. Ça veut dire que cette promotion a été quasiment aux deux tiers sacrifiée. Et ils ont accepté cette idée. Et j'ai trouvé dans les notes que prenait mon père à l'époque, mon père a eu la Légion d'honneur à 19 ans et demi. Il a été blessé 3 fois, etc. Et à un moment donné, dans ses notes, il raconte une opération où il a laissé derrière lui des dizaines de morts qu'ils ont perdus pour prendre une colline qui a été reperdue le lendemain. Et il vient chez voir sa mère, c'est ça. Et il dit, en voyant maman qui m'attend sur le quai de la gare en Charente, c'est le plus beau jour de ma vie. Ça veut dire que les morts qu'il a laissés derrière lui, il accepte leur mort, il accepte leur sacrifice. Donc, en effet, vous avez raison, qu'il y a eu cette propension, cette capacité de mourir pour ce à quoi l'on croit, nous l'avons perdu. Et face aux kamikazes, nous sommes dans ce que les militaires appellent une asymétrie nouvelle, et que nous essayons de compenser avec notre obsession du zéro mort, nous essayons de compenser cette asymétrie par la technologie, c'est-à-dire par le drone, qui est une forme assez barbare, c'est une barbarie douce, on ne voit jamais les morts, donc en effet c'est une vraie question. Et je pense très honnêtement que quand je dis réapprendre à penser la guerre, c'est pas seulement réapprendre à la limiter, à la contrôler, mais c'est réapprendre aussi, c'est réapprendre à mourir quand il le faut.
Au fond, Jean-Claude Guibaud, au XVIIIe siècle, le corps du roi était sacré. Au XIXe, ce fut le corps de la nation, la patrie. Et au XXIe, on chercherait en vain le sacré, peut-être la famille. Est-ce qu'on meurt pour sa famille? C'est possible. Mais en tout cas, ça ne fait pas dans la guerre et la paix entre les nations, ce n'est pas discriminant. Donc, vous l'avez dit, le drone. Supériorité technologique égale faiblesse spirituelle?
Oui.
C'est-à-dire que nous,
plus que ça,
ce par quoi nous sommes supérieurs Régis et ce qui trahit, ce en quoi nous sommes inférieurs.
Régis Debray, plus grave que cela. Parce que vous savez que les drones aux États-Unis ont été soustraits à la gestion de l'armée, qu'ils sont soustraits directement par une société privée, si j'ose dire, qui dépend directement du président de la République. Et il y a aux États-Unis, grâce au Parti démocrate, il y a un débat sur les drones qui n'existe pas en France. Puisqu'au fond, on sait maintenant que pour tuer un supposé terroriste, il faut accepter l'idée d'avoir 20, 30, 40 victimes collatérales. C'est-à-dire des femmes, des enfants, etc. Il y a 1000 exemples. Vous savez, au Pakistan, où les drones ont tiré sur des noces, sur des mariages, etc. Et aux États-Unis, on dit que ces gens que l'on tue avec des drones, qui les pleure? Qui les met en rapport avec nos victimes chez nous du terrorisme? Autrement dit, d'abord, il y a quelque chose de profondément immoral, d'accepter sciemment la mort de civils. Et puis, il y a quelque chose d'absurde. Parce que quand vous tuez 30 victimes, enfants ou femmes civiles, vous fabriquez évidemment plus de terroristes que vous n'espérez en tuer. Donc, il y a quelque chose d'absurde.
Jean-Claude Guibaud, je dois vous arrêter là parce que je trouve que vous entrez dans des considérations parfaitement incorrectes. Les terroristes sont des lâches, les démocrates sont des gens courageux.
Bien sûr que non.
Et il est évident que celui qui est derrière...
C'est un compliment.
Celui qui est derrière son écran dans l'Arkansas et qui va rejoindre, va aller chercher ses enfants à l'école, est un vaillant défenseur de la liberté. Les autres sont de pauvres cires. Donc je vous arrête là parce que vos propos vont devenir gênants. Alors un petit détail... on réfléchisse pas trop sur le drone parce que la France n'a pas de drone armé, n'a pas de drone de combat, il n'a que des drones d'observation et que nos industriels...
On va en acheter aux Israéliens.
Et aux Américains. Et donc, parce que la fabrication du drone ne serait pas rentable en France, ce qui est une vérité puisque le marché est déjà saturé à la fois par les Israéliens et les Américains. Donc là, nous voyons bien à quel point la guerre... au fond, nous confronte à une sorte de radioscopie de l'être humain,
bien sûr,
n'est-ce pas?
Bien sûr.
C'est tout ce que nous avons ou nous n'avons pas à l'intérieur s'extériorise dans nos comportements face à la guerre.
Est-ce que vous me permettez d'être encore plus incorrect?
Non, parce qu'on va, devoir interrompre cette émission et je pense que je veux défendre la réputation de France Culture. Nous sommes dans une radio démocratique.
Nous défendons
la liberté. Nous défendons l'intégrité. Mais enfin, je vous laisse parler.
Non, parce que
un ultime moment de tolérance. Allez.
Nos hommes politiques sont capables d'une incorrection incroyable. Quand nous pensons que notre allié, c'est l'Arabie Saoudite, dont nous décorons les dirigeants, à qui nous sommes contents de vendre des armes, etc. Et que, au fond, c'est le juge Trévidic, on a oublié sa réflexion, qui remonte à 2 ou 3 ans, en disant, faire alliance avec l'Arabie Saoudite en prétendant combattre le terrorisme, c'est un petit peu comme si on faisait alliance avec Hitler pour combattre le nazisme, quoi. Autrement dit, je suis scandalisé qu'il n'y ait pas plus de protestations de citoyens, de politiques chez nous contre ce choix insensé. Voilà.
Ah, mon cher Jean-Claude Guibaud, vous ne faites pas assez de dialectique. Vous ne comprenez pas que pour combattre des gens qui coupent les têtes et qui oppriment les femmes, il faut s'allier avec des gens qui coupent les têtes et qui oppriment les femmes. C'est une
logique. Et surtout qui financent ceux qui coupent les têtes.
Absolument. Non, mais écoutez, laissons de côté, vraiment, revenons sur des terrains plus sûrs au point de vue moral. Vous dites à la fin de votre livre, et c'est là où encore j'interroge le chrétien. Oui, je n'ai pas honte d'interroger le chrétien, étant moi-même de culture chrétienne, je ne vous le cache pas, avec laquelle j'ai pris un certain recul critique. Et vous dites quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Refuser la violence sans être mécaniquement pacifiste.
Oui.
Alors là, je dis que c'est intéressant. Même, il y a beaucoup de militaires dans les églises intégristes à Paris, mais vous posez un vrai problème. Et c'est vrai que les boucheries auxquelles vous faites allusion, vous parlez de Borodino qui a fait Tolstoï, si j'ose dire, Tolstoï qui fera Gandhi.
Enfin, les horreurs de Borodino.
Et puis vous parlez aussi de Borodino. Et puis vous parlez pas de Solferino, mais c'est à Solferino que Dunant et Lacroix.
Si, il y a plusieurs pages sur Henri
Dunant. D'accord. Et alors, là, c'est tout de même. J'aimerais bien que vous. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, refuser la violence sans être mécaniquement pacifiste? Parce que il y a quelque chose de tragique dans l'idée que résister à la violence et utiliser la violence, donc il faut faire du mal pour arrêter le mal, c'est une dimension un peu tragique des choses. Je pense à Ricoeur qui disait résister à la tentation terrible de la bonté. Comment vous faites pour résister en tant que chrétien à cette tentation chrétienne de la bonté?
Je vais vous citer notre chef d'état-major, Pierre de Villiers, qui a précisément fait une tribune dans Le Monde pour dire cela, et pour dire que c'est ce qui le distinguait, lui, chef d'état-major, de certains politiques, qui étaient prêts, par nécessité, croyait-il, de faire la guerre, qui étaient prêts à faire une guerre aussi barbare que les gens qu'ils combattaient. Et Pierre de Villiers s'est insurgé, je ne sais pas s'il est chrétien, mais apparemment, je ne sais pas, en tout cas, il s'est insurgé en disant « si on fait la guerre de manière aussi barbare que les barbares que l'on combat, c'est eux qui gagnent, parce qu'ils vous ont transformé. Vous n'êtes plus ce que vous étiez auparavant. » Et je dois dire que dans cette tribune du Monde, tout le monde a compris qu'il faisait allusion directement au Premier ministre, à Manuel Valls, qui avait dit « rappelez-vous », qui avait dit « quand on part faire la guerre, on laisse tomber les grandes idées ». Il avait dit ça pour se moquer des intellectuels, ce qui était invraisemblable, quoi. Et j'ai trouvé assez drôle que ce soit le chef d'état-major qui reprenne sur une question morale, qui reprenne le Premier ministre. Alors faire la guerre sans être non-violent, sans être pacifiste, c'est assez simple. Ça veut dire faire la guerre constamment, en faisant pas la guerre n'importe comment, en faisant pas la guerre avec n'importe quel moyen, en refusant d'être aussi barbare que les barbares qu'on combat, en s'efforçant de proportionner la réponse à la menace, etc. C'est-à-dire, c'est renouer avec cette idée de on fait la guerre, mais on en contient la violence. On ne s'abandonne pas à ce que j'appelle les plaisirs dégoûtants, c'est-à-dire à l'ivresse du combat.
Alors,
il y a un bel exemple, pardonnez-moi, magnifique, que je cite dans mon livre, qui est un protestant, puisque vous m'interrogez sur le christianisme. Il y a ce magnifique exemple du pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui était résolument non-violent. Il avait fondé l'église confessante en Allemagne au moment du nazisme. Il avait refusé toute collaboration, même indirecte, avec les nazis. Et puis quand on a commencé à préparer l'attentat contre Hitler, on lui a demandé son aide. Il a accepté de prêter son concours, si j'ose dire, à la préparation de l'attentat contre Hitler. Il a été arrêté. Il a été pendu par les Allemands, mais avant d'être pendu, en 1945, il a fait passer à l'extérieur de sa prison un petit texte. Je dois à Antoine Nuis, le directeur de réforme, de connaître ce texte, où il a dit « J'ai transgressé mes convictions parce que j'étais résolument non-violent, parce que je n'acceptais pas l'idée que Hitler allait faire encore mourir 100 ou 200 000 personnes de plus. Mais si vous permettez, de cette question, j'en discuterai personnellement avec le bon Dieu. » C'est-à-dire que je pense qu'il désignait cette limite entre le pacifisme intégral et la non-violence.
allante, insouciante, rythmée, dynamique. Pourquoi vous avez choisi cette musique qui nous évoque évidemment la libération, Jean-Claude Guibon?
Glenn Miller, c'était un orchestre de militaires. Cet air a été composé en 1944, l'année de ma naissance, qu'on me pardonne. Et il a été introduit en France, évidemment, après le débarquement et au moment de l'arrivée des Américains, chez nous. Et il a depuis cette date-là, je constate que chaque fois que j'ai été comme reporter de guerre à l'étranger, au Biafra ou ailleurs, presque toujours, j'ai trouvé des orchestres militaires qui, quand on leur demandait de jouer, jouaient d'abord cette chanson-là. Cet air-là, qui symbolise à la fois dans la liberté, la victoire contre le nazisme, la fin de la guerre, etc. Donc j'ai été frappé de voir, je serais incapable d'énumérer le nombre d'orchestres, des armées étrangères, des armées arabes, des armées africaines, etc., qui m'ont joué ou qui ont joué aux journalistes que j'étais, qui m'ont invité à écouter ce morceau. C'est devenu une chanson emblématique de la victoire.
Et peut-être aussi, Jean-Claude Guibeau, d'une certaine joie.
Oui.
À faire la guerre.
Oui.
Je dirais d'un entraînement collectif, rythmé, revigorant, comme une sorte de bouffée de vitalité et de santé au bord de la mort, n'est-ce pas ? Là, on retrouve beaucoup de considérations nietzschéennes, proudhoniennes, etc., qui n'est pas seulement la guerre fraîche et joyeuse, qui est la guerre qui régénère. Et alors, je suis content que vous ayez mentionné que Glenn Miller, c'était un militaire. Les militaires savent faire de la musique, et oui, pas toujours mauvaise. Et puis, les militaires, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Claude Guibeau, les militaires savent penser. Les militaires sont parfois beaucoup plus, je dirais, profonds, intellectualisés, que les civils. Là, vous avez mentionné le chef d'état-major des armées faisant courtoisement la leçon à un premier ministre dont le moins qu'on puisse dire est que ce n'est pas un intellectuel mais un communicant. Mais revenons donc à cet entraînement à la guerre, de la guerre, entraînement, parce que cette musique est très très entraînante.
Pour vous répondre, Régis Debray, je vous dirais que c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, à l'origine. Quand j'ai commencé à vivre la guerre, si j'ose dire, comme reporter de guerre, c'était, je me souviens que la première fois, c'était au Vietnam en 69. J'ai découvert que moi-même, qui n'était pas d'un tempérament guerrier, agressif, je voulais être professeur de droit.
Oui, mais vous aviez des traditions dans
oui,
la famille.
Oui, peut-être. Mais tout d'un coup, j'ai éprouvé moi-même ce que j'appelais les plaisirs dégoûtants. C'est-à-dire cette espèce de jubilation guerrière dont, en général, on n'ose pas parler. Parce que évidemment, c'est pas bien quand on est au Vietnam de se dire que je prends mon pied en faisant un bombardement en piqué sur un avion Skyraider sud-vietnamien.
Le hideux trémoussement.
Voilà, comme
celui du jazz par moment.
Pour parler comme Maurice Genevoix, c'est ouais. Une expression de Maurice Genevoix. Donc je me suis dit, il faudra qu'un jour j'aille jusqu'au fond de cette réflexion. Pourquoi il y a une jubilation de la guerre et pourquoi on n'en parle jamais? Je ferai une petite parenthèse parce que je me souviens qu'il y a vers la fin des années 70, nous avions publié un livre qui avait d'ailleurs fait un peu scandale, du général Buis, le général Georges Buis, qui avait fait un livre qui s'appelait « Les fanfares perdues », où il disait, notamment à un commencement de chapitre, en disant « On a beau dire ce qu'on veut, mais un alignement de chars au petit matin le long d'une forêt, c'est magnifique à voir ».
C'est-à-dire que il y a une esthétique de la guerre, Jean-Claude Guibeau, et il y a même plus, il y a peut-être même une métaphysique très humaine de la guerre. Et je pense au journal de Teilhard de Chardin, que j'ai retrouvé dans votre livre, je l'avais longuement cité moi-même. C'était très troublant de voir comment Teilhard de Chardin parle de la guerre de 14-18 comme une sorte d'accomplissement, j'allais dire de bonheur quasi
alors, évidemment, métaphysique. Ici, même, c'est l'odeur de chlore à Ypres. Je n'oublierai jamais ces magnifiques matins à Ypres. Mais comment vous dire, j'ai découvert une chose que j'ignorais, honnêtement, en faisant cette fois des travaux de lecture, c'est que pendant des siècles, presque tous les écrivains ont fait l'éloge de la guerre. C'est-à-dire que notre dégoût de la guerre, date de la guerre de 14, mais qu'auparavant, je pense à Joseph de Maistre, dans les conversations de Saint-Pétersbourg, qui dit « la guerre est divine ». Et quand il dit « la guerre est divine », c'est pas par référence au christianisme, c'est parce que la guerre, c'est le moment où un homme peut aller jusqu'au bout de son courage, de sa solidarité, de son amitié, de son esprit de sacrifice. C'est-à-dire que c'est le moment où l'homme peut aller jusqu'au bout de lui-même et s'éprouver.
Ouais, c'est le moment aussi où une multitude peut devenir un corps.
Oui. C'est la camaraderie, c'est
où l'éparpillement individualiste tout d'un coup se dépasse et retrouve une sorte d'ivresse d'appartenance qui nous manque singulièrement. Oui. Je ne crois pas que votre livre pousse au bellicisme, pour faire votre audio, mais il pousse en tout cas, et c'est pourquoi je vous ai invité, parce qu'on a besoin, au fond de lever ce refoulement que nous avons. Et vous le faites avec beaucoup de courage.
Pierre Gisoret, si je peux me permettre de reprendre quelque chose que vous avez dit au tout début. Vous aviez raison de dire, le philosophe que je suis, bon, la guerre, il s'y intéresse, il connaît depuis toujours. Vous avez raison. Les philosophes connaissent et ont réfléchi à la guerre et continuent de réfléchir.
Il leur arrive même de la pratiquer.
Ça n'est pas le cas d'Inebedia ni des hommes politiques. Nos hommes politiques d'aujourd'hui qui ont, disons que les plus jeunes d'entre eux ont mon âge, donc ils sont nés, ce sont des analphabètes concernant la guerre. Et quand la guerre est revenue chez eux, alors qu'elle a été absente du terrain, du sol européen pendant 7 décennies, 70 ans, ils ont montré qu'ils étaient absolument des analphabètes qui ne savaient, je veux pas être méchant en citant des noms, mais il y a des noms qui nous viennent à l'esprit, et tout d'un coup, ils ne savaient plus par quel bout prendre cette chose-là, quoi.
Moi, je vais défendre les analphabètes, Jean-Claude Guibert. C'est-à-dire les gens au pouvoir, qui effectivement sont des têtes creuses. Mais c'est pas de leur faute. Ils ont vécu dans un monde qui leur a évité d'avoir quelque épreuve physique que ce soit.
Absolument.
Ils n'ont connu ni la clandestinité, ni le risque de mort, ni la bataille, ni même l'exil. Ce sont des gens qui n'ont été formés par rien, donc ce sont de brillants de l'intelligence sans caractère. Mais est-ce leur faute ou est-ce la faute, je dirais, de ces 70 ans exceptionnellement, je dirais, voués à toute chose qu'on appelle prospérité, consommation, bonheur, communication, c'est-à-dire à toutes choses qui ne sont pas fausses, mais toutes choses qui sont, je dirais, comme des parenthèses dans la vie de l'humanité.
Régis Debray, pour employer un mot plus précis, ils ont vécu dans une sorte d'impunité permanente. Et aujourd'hui, d'ailleurs nous le savons, vous et moi, quand on affirme sa conviction avec force, autrefois on risquait sa vie. Maintenant on risque quoi? Une couverture de Charlie Hebdo. Ce qui est évidemment tragique et tout ça, mais c'est virtuel et c'est rien. C'est-à-dire que il n'y a plus de sanction qui vient sanctionner le courage tout simplement ou la. Donc cette impunité là, en effet, a fait de nos hommes politiques, pas seulement d'ailleurs les élites politiques, mais les élites économiques, les élites médiatiques. Quand j'ai vu, excusez-moi, après le Bataclan, tous nos hebdomadaires qui titraient « La Troisième Guerre mondiale est commencée », j'avais honte pour mon métier de journaliste, parce que c'est absurde de convoquer un imaginaire, etc., qui n'a rien à voir avec ce que nous vivions, quoi.
Ça pourrait choquer un historien, la Troisième Guerre mondiale. Je me souviens de cette couverture de magazine. Parce qu'un historien vous dirait, dites donc, c'est formidable, une guerre mondiale qui fait 250 morts en un an. Parce que c'était à peu près ce que faisait une heure de guerre en 14-18, n'est-ce pas?
Et c'est la moitié de ce que faisait un bombardement de Londres en 1941 par les avions de guerre.
Donc, évidemment, nous avons perdu toute échelle des souffrances, toute échelle des épreuves. Nous avons été anesthésiés. Et votre livre est de ceux qui peuvent nous sortir le coton de chloroforme de sous le nez et donc vivre le réveil et vivre la tourmente de la guerre, si j'ose dire.
Le tourment de la
guerre. Ça ne veut pas dire vive la mort. Ça veut dire considérer la mort de face pour essayer de mieux vivre et donc d'affronter le tourment de la guerre. Et une question me vient à l'esprit. Il y a d'autres échelles de violence que la guerre. Je veux dire, on ne peut pas confiner le tragique dans la guerre. Est-ce que certaines formes de non-violence ne font pas violence à nos habitudes? Est-ce que une certaine forme de non-violence n'est pas encore une façon de faire la guerre?
Oui, on a fait très brièvement allusion à Tolstoï, et ça, c'est le cas de Tolstoï qui est très parlant pour cela. Ça mérite deux mots d'explication très rapides. En réalité, Tolstoï a enquêté sur la campagne de Russie de 1812, 50 ans après les faits. Donc, pour écrire Guerre et Paix. Donc il a fait son travail de documentation, comme on dirait maintenant, qu'il a voulu très précis, et il est allé sur le champ de bataille de Borodino, qui a été épouvantable, puisqu'il y a eu 80 000 victimes en 10 heures de bataille, pour enquêter, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris conscience de la sauvagerie absolue de la bataille de Borodino, qui est la plus monstrueuse des batailles de toute l'aventure napoléonienne. Et ça l'a tellement bouleversé que, alors qu'il était dans sa jeunesse officier d'artillerie à Sébastopol, qu'il avait dit lui-même dans des textes qu'il aimait faire la guerre, tout d'un coup il est devenu rigoureusement hostile à la guerre, non violent, sur le thème « quand, comme chrétien, on croit au sermon sur la montagne, on n'a pas le droit de faire cela ». Il a créé un mouvement non violent qui lui a valu d'être excommunié par l'Église orthodoxe, mais surtout qui lui a valu, quelques années plus tard, d'être lu par un jeune avocat qui, alors qu'il avait 83 ans, lui a écrit en disant « Maître, je vous lis et vous êtes devenu mon maître, je suis votre disciple ». Et ce jeune avocat, c'était Gandhi.
Précisons, Jean-Claude Guibaud, et c'est pas l'auteur du Tourment de la guerre qui me démentira, que la non-violence n'est pas la désertion. La non-violence est un combat.
Absolument.
La non-violence est une façon de faire la guerre, d'une autre façon. Mais c'est dur, la non-violence. On est bien d'accord.
Tolstoï en a payé le prix, et Gandhi, à son tour, face au Raj, à l'Empire britannique, il en a payé le prix lui aussi. Autrement dit, en effet, il y a une forme de non-violence qui est beaucoup plus courageuse encore que la violence.
Donc on ne se démobilise pas quand on est non-violent.
Certainement pas.
Merci Jean-Claude Guibaud.
Merci Régis Debray.
Discussion du soir, Jean-Claude Guibaud, Cédric Châtelus et Laurence Genepin. Anne-Pascale Desvignes et Régis Debray.